Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h05 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Nous sommes largement revenus sur ce magnifique succès de notre 15 de France face à la Nouvelle-Zélande hier soir. Si vous voulez en reparler, ce sera à 11h45, le 32-16. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un thème du jour. Vous venez lui dire en face. On a parlé d'équipe de France de rugby, l'équipe de France de foot. Bref, n'hésitez pas à venir nous joindre. Vous aussi, vous êtes des grandes gueules. Toujours avec Philippe Saint-André, Marion Bartoli, Marc Madio, Simon Dutin. Dans quelques instants, J-2 avant la dernière danse de Raphaël Nadal avec la phase finale de la Coupe Davis. Doit-il absolument jouer cette semaine? Nous nous poserons la question. 11h30, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre, nous dire ce qu'elles ont sur le cœur. D'après vous, c'est quoi le débat caché du jour? Tiens, je vais voir Marc Madio. C'est quoi le débat caché?
Je crois que j'ai trouvé.
C'est quoi?
Pogba.
Ben quoi, Pogba?
Pogba, le club de la Juventus a résilié son contrat.
C'était vendredi.
Il va être sur le marché.
Il va être sur le marché et tu veux qu'on se demande où il va peut-être atterrir,
ben
c'est
pourquoi
ça?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Ok, c'est ta proposition. Paul Pogba, c'est vrai que ça a été l'une des informations en fin de semaine.
C'était ma proposition d'hier matin.
Exactement, Philippe. Tu veux recycler du Paul Pogba ou tu as pensé à autre chose?
Non, est-ce que c'est l'âge d'or du tennis masculin français? Pourquoi? Parce qu'on a 13 joueurs français dans le top 100 ATP.
Ok, tu veux aller sur...
Lance pas là-dessus, Philippe.
Ah, non, mais c'est pour ça que je...
Tu veux marcher dans les pas de Marion Bartoli?
Ben oui,
je la provoque quelque part. Marion, tu vas proposer un débat rugby ou pas?
Oui, mais bien sûr. Non, alors je pense effectivement comme Marc, ou sinon je me dis que comme la saison de ski aussi commence, peut-être un petit débat sur le ski.
Ok, Eline Sevon, hein, que tu nous as proposé pour les juges contre-attaque.
Non, Clément Noël, un truc comme ça. Est-ce que les Français vont faire une belle saison cette année?
Okay.
Autour du ski.
Oh, je vous ferai pas ça quand même, faut bosser un petit peu. Je vous demanderai pas comme ça dans le noir une question sur le ski, mais pourquoi pas?
En tout cas, on bosse à l'année, attends, on a quand même quelques connaissances.
C'est une proposition.
Tu nous
oui.
négliges. Tu nous
non,
négliges.
Pas du tout, mais c'est vrai que le ski, c'est pas cadeau quand même, comme je l'ai caché. Simon, ce sera quoi?
J'ai failli aller sur un truc du genre, tu sais, Trump était à une réunion de MMA là, aux États-Unis et tout, les crossovers entre politique et sport de haut niveau. Mais je préfère, tu vois, faire semblant de trouver un débat golf pour que tu nous donnes des nouvelles d'Antoine Rosner.
Non, tu vas pas faire le faillot deux fois quand même.
C'est pas le faillot, ça m'intéresse.
Mais oui, Simon ne fait pas le faillot. Simon participe au Practice RMC, le podcast de golf de référence. Bah, alors sachez qu'Antoine Rosner, parce que tu me poses la question, je n'avais pas prévu d'en parler évidemment. Antoine Rosner, c'est la Race to Dubaï, c'est le dernier grand rendez-vous sur le circuit européen. Et s'il termine dans les 5 premiers, direction les États-Unis la saison prochaine. Et pour l'instant, il est toujours 3e, donc toujours dans le top 5. Et il reste quelques trous. Allez, Antoine Rosner. Merci, Simon. Demain, épisode spécial dans le Practice RMC.
Il était deuxième tout à l'heure. Il vient de perdre une place.
Oui, mais c'est pas grave ça. Tant qu'il est dans les 5 premiers, ça nous va. Tu parlais de Clément Noël, Marion Bartoli, justement, à prendre des nouvelles de nos Français. C'est la première manche de la saison, le premier slalom avec Léna Marjac en Finlande. Léna.
Oui, mais toujours Clément Noël en tête de cette première manche. Et sur la troisième marche de ce podium, on retrouve un deuxième Français, c'est Steven Amier. C'est un petit peu moins souris pour Victor Mufajandé, parti avec le dossard 43. Il est pour l'instant 30e provisoire. Alors, il pourrait voir la deuxième manche, mais ça risque d'être compliqué parce qu'il y a encore beaucoup de monde à s'élancer. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait Marcel Hirscher, l'ancien, la légende autrichienne, maintenant néerlandais, qui a pris le départ. Malheureusement, c'était pas très très beau à voir. Il est 40e, il ne verra donc pas la seconde manche. Mais ce qu'il faut le retenir en tout cas, c'est qu'on a toujours nos deux Français sur le podium. Clément Noël donc en tête et Steven Amier, 3e de cette première manche à Lévis. Et les conditions sont plutôt bonnes.
Ouais, et puis forcément, en début d'après-midi, vous suivrez la deuxième manche de ce slalom avec, on l'espère, une très belle réussite pour nos deux Français.
Comme quoi, les chiens ne font pas des chats en ski non plus. Hein. Okay. Ben, Steven Amier.
Okay. Je ne sais pas comment rebondir. Je ne sais pas comment rebondir. Les chiens ne font pas des chats en ski. Très bien. Eh bien, tu sais quoi, Pierre qui roule n'amasse pas mousse en ski.
Mais
bon.
La moustache.
Oh, je l'ai.
On va peut-être arrêter.
Je vais élever le débat avec cette citation de Marguerite Yourcenar qui a dit un jour: tout moment est dernier parce qu'il est unique.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
C'est une nouvelle participation ici à Roland-Garros, la 19e pour lui. 14 fois vainqueur ici, 22 titres du Grand Chelem. Il est espagnol, Rafael Nadal.
Ahí la tienes, Rafa Nadal al suelo. hier Roland Garros.
2005, 2006, 2007, 2008, 2010.
C'est un ace. Oh, le mec, il est pas longé, il est à genoux. Il est à genoux, Rafa Nadal. Il l'a fait. Incroyable démonstration de puissance, de tout. C'est le plus grand terrien de tous les temps.
2011, 2012, 2013, 2014, 2017.
Incroyable, et ça termine sur ce petit coup de patte. Et Rafa Nadal réussit pleinement et parfaitement de retour à la compétition.
Il monte.
Elle est sur la ligne et il finit là-dessus. Immense champion, il en jette sa raquette, il n'en croit pas ses yeux.
Goodbye my lover, goodbye my friends. You have been the one.
Ah, je sais, j'étais sûr, Marion, que tu chanterais.
You have been the one for me.
Alors, évidemment, si vous aimez Marion dans cette émission, dans les grandes gueules du sport, sachez qu'elle sait chanter parce qu'elle a déjà participé à Mask Singer. Non, souvenez-vous.
Je sais pas chanter, mais j'ai bien chanté.
Fou, tu vois, c'est pas compliqué. Quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets.
Bravo Marion, t'aurais dû tester
Goodbye si tu savais le chèque indécent que j'ai pris pour ça.
Ouais, bah ça j'imagine qu'il y a de raisons pour le faire. Hein, tout même. T'étais quoi, t'étais en cupcake, t'étais en gaufre, t'étais
non,
en banane.
Non, petit koala. Moi je suis très romantique.
Koala, ah ouais, c'est très mignon. Oui. Alors cette semaine, Rafael Nadal, revenons sérieux, va faire ses adieux au tennis à l'occasion de la phase finale de Coupe Davis. La légende espagnole va disputer ses derniers instants dans la peau d'un joueur de tennis professionnel. Mais sera-t-il vraiment sur le court? Le doute est permis, le doute est réel, et c'est Rafa lui-même qui le dit.
Si je ne me vois pas prêt, je suis le premier en que voy a hablar con el capitán.
Si je ne me sens pas prêt à jouer en simple, je serai le premier à en parler au capitaine. Je lui ai déjà dit à plusieurs reprises de ne pas prendre de décision basée sur ma dernière semaine en tant que joueur de tennis professionnel.
Es mi última semana como tenista profesional.
Mais voilà, pas de cadeau pour Rafael Nadal. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. L'Espagne affronte en quart de finale dès mardi les Pays-Bas avant de retrouver en cas de qualification l'Allemagne ou le Canada en demi et puis peut-être l'Italie de Yannick Sinner en finale. Mais ça, ce sont des projections. Surtout ce qui nous préoccupe aujourd'hui, la musique qui fout les jetons et cette question. Rafa Nadal, ce sont ses adieux. Doit-il jouer absolument cette Coupe Davis? Oui ou non? Marc Madio.
Oui.
Marion Bartoli.
Oui.
Philippe Saint-André.
Oui.
Simon Dutin.
Oui.
C'est fou. Tout le monde me dit oui. Avant de débattre, on va retrouver notre correspondant en Espagne, Edgar Grollo. Bonjour Edgar.
Salut les GG, salut à toutes et à tous.
Tu as passé la semaine à Manacor, la ville natale de Rafael Nadal.
Ici, Rafael Nadal, c'est...
Una leyenda.
Une légende. Il a fait connaître Manacor dans le monde entier.
C'est le meilleur sportif que nous ayons eu ici. Un exemple à suivre pour tous les Manacori. Il représente l'effort, la constance et le savoir-être. C'est quelqu'un de très humble. Je l'ai vu quand il était très petit, qu'il n'était pas encore numéro un. Et c'est toujours la même personne. Même les plus jeunes.
J'ai 12 ans. J'ai vu comment Nadal a grandi et c'est très inspirant. Grâce à lui, je vais toujours de l'avant.
Chaque année, plus de 3500 joueurs juniors viennent du monde entier s'entraîner à la Rafa Nadal Academy de Manacor. Certains y sont des membres permanents, comme le Français Nathan Trouvé, touché par la future retraite de l'Espagnol.
Ça a fait un choc, quoi. Je vais pas dire des larmes, mais quand même.
Ce ne sera plus comme avant.
C'est comme un truc qui part du tennis, une étincelle qui va plus avoir.
Ici, tout le monde va vivre au rythme des derniers matchs de Rafael Nadal, a commencé par Tomeu Salva, entraîneur à l'académie et ami de longue date du joueur.
Je vais essayer de profiter au maximum de chaque minute, de chaque coup et de chaque moment où il pourra être là.
Nathan Trouvé, lui, a un peu la pression. C'est un partenaire d'entraînement de la légende de Roland Garros.
J'ai envie de bien faire pour essayer de lui donner la meilleure préparation possible parce que j'ai pas envie qu'il perde au premier match. Quoi.
Tout le monde à Manacor ne rêve que d'une chose.
On espère que ça va être une belle fin pour lui.
Selon ses proches, l'avenir de Rafael Nadal devrait continuer à s'écrire à son académie à Manacor.
Edgar Grollo, merci beaucoup Edgar Grollo pour ce reportage en direct d'Espagne. Manacor, forcément, vous le savez, la ville natale de Rafael Nadal, là où il y a son académie. Rafa Nadal doit-il absolument jouer cette Coupe Davis? Lui-même a des doutes. Pourquoi oui? Marion Bartoli, le 32-16, pour participer à ce débat.
Alors, tout d'abord, la Coupe Davis est chaque année, mais l'adieu d'une légende du tennis, il n'y en a qu'un. Et Rafa s'est préparé pour réaliser un adieu tel qu'il a envie de l'avoir, c'est-à-dire rester le plus possible, en tout cas sur des victoires et sur des bons souvenirs. Il s'est fixé comme dernier objectif très clair et réaliste de sa vie professionnelle d'être sur le terrain pour représenter l'Espagne. Alors après, je ne sais pas si ça sera en simple, je ne sais pas si ça sera en double, je ne sais pas si ça sera les deux, mais je peux vous dire qu'il va être sur le terrain pour jouer. Raison pour laquelle il a joué avec Alcaraz ensemble en double aux Jeux Olympiques. Il sait très bien que le reste des tournois, effectivement, ce n'était pas réaliste pour lui d'espérer les remporter. Je parle des tournois du Grand Chelem ou des Master 1000. Là, il a 3 matchs à jouer potentiels. Premier match le mardi contre les Pays-Bas. Ensuite, la demi-finale qui est seulement vendredi. Donc, il a 2 jours complets pour récupérer. Alors que l'autre demi-finale est le samedi et la finale le dimanche. Donc, le calendrier a été fait aussi pour que Rafa ait assez de récupération pour qu'il puisse jouer. Dernier point, après j'en développerai d'autres tout à l'heure, mais les rencontres de l'Espagne potentielle, donc leur premier match, bien évidemment, mardi qui est assuré, la première demi-finale vendredi et la finale potentielle sont toutes à guichet fermé. Alors que sur toutes les autres rencontres, vous l'avez signalé, il y a l'Italie de Sinner, il y a l'Allemagne de Zverev, toutes les places dans toutes les catégories sont disponibles. C'est-à-dire qu'il vous reste des places de 60 euros jusqu'à 500 euros.
Donc on est obligé de le faire jouer. Ferrer, le capitaine, non, ne peut pas se priver de Nadal.
Ça va être une fête du tennis. Il faut bien savoir que Nadal est le plus grand sportif espagnol de tous les temps. Tout sport confondu. Toutes les grandes légendes espagnoles du sport, actuelles ou passées, veulent assister à son match. Toutes les légendes du tennis, que ce soit Novak Djokovic, Andy Murray, veulent assister au match de Rafa. Bien sûr qu'il va jouer. Après, effectivement, est-ce qu'il va jouer en simple? Ça, c'est une autre question. Mais est-ce qu'il va jouer pour l'Espagne qui sera sur le terrain? Ça, je peux vous l'assurer. Tous ses sponsors vont être là. Ça va être un adieu absolument sublime. On va tous pleurer. Tous les passionnés du tennis vont pleurer. Je vais développer d'autres points tout à l'heure. C'est pourquoi il a choisi la Coupe Davis, je vais vous le dire. Mais en tout cas, dans l'émotion et dans le moment et dans la légende qu'il est, bien sûr qu'il va jouer et bien sûr qu'il doit jouer.
Ok, on se posera la question du simple dans quelques instants et de savoir si c'est encore un atout pour l'Espagne. Mais on le sent, même si c'est que la Coupe Davis en ce moment, on sent que, évidemment, ce qui réunit tout le monde à Malaga, ce sont les adieux. Mais finalement, eh bien, l'Espagne est prisonnière un petit peu de ses adieux et est obligée de le faire jouer. C'est ce que nous dit un petit peu Marion et c'est ce que nous disent les autres aussi, Marc.
Bah, moi, je suis pas au fan club de Nadal. On s'en fout, mais je considère que compte tenu du palmarès qu'il a, de l'influence qu'il a eu et de la grandeur qu'il a quand même eue sur le tennis, c'est à lui et à lui seul de décider s'il doit ou non jouer et sous quelle forme il doit jouer, en simple, en double, peu importe.
On oublie l'équipe là.
Non seulement on oublie l'équipe, mais on oublie aussi le résultat. J'ai envie de dire, et encore une fois, je fais pas partie du fan club, donc je le dis d'autant plus facilement. Je trouve que, compte tenu de son parcours, l'Espagne lui doit cela, et ses coéquipiers espagnols lui doivent cela. Voilà. Donc, il joue, peu importe le niveau qu'il aura, peu importe le résultat. Ce dont on se souviendra, c'est qu'il a terminé à cet endroit, ce jour-là, et sur cette Coupe Davis-là.
Il faut des adieux réussis plutôt qu'une compétition et une Coupe Davis réussie. C'est ce que tu nous dis. Vous achetez aussi ça?
C'est réussi ou pas réussi, évidemment. Gagné ou perdu, ou même oui. s'il est faible dans
mais sa prestation. Mais les adieux doivent être réussis.
Voilà. Il ne sera pas faible, en plus, hein, le connaissant, et vu comment il s'est préparé, il ne sera pas faible. Mais tu as complètement raison, Marc. Les joueurs vont se mettre minables pour lui. Alcaraz, il a déjà déclaré, il a dit que ça va être le tournoi le plus marquant de ma carrière. T'imagines, c'est Alcaraz qui va jouer en 1. Attention, c'est pas Nadal qui joue en 1, qu'on soit bien d'accord, hein. C'est Alcaraz qui joue en 1. Donc c'est lui qui va se taper les Sinner et les Zverev. Donc Rafa, de toute façon, va jouer que les numéros 2 de l'équipe. S'il joue en simple, encore une fois, il peut décider de s'aligner qu'en double. Mais les joueurs espagnols vont se mettre mina pour être sûr que Rafa essaye ou qu'il tente de remporter la Coupe Davis. Ils vont absolument tout donner. Et je pense que Bautista Agut ou Carreño Busta, qui sont les deux autres joueurs potentiels pour jouer en simple, préfère que ce soit Rafa qui prenne la raquette et qui va jouer vu son palmarès que pour essayer de gagner un deuxième point. Très franchement, au vu de l'ambiance qu'il va y avoir, de l'émotion générale qu'il va y avoir, s'il y en a un qui peut arriver à gérer ça, c'est bien Rafa.
Donc, Simon Dutin. De toute façon, je reviens Marion, Simon.
Évidemment, je suis sur la même ligne que Marc. Cette Coupe Davis, on en a suffisamment parlé, perdu de son prestige. Il reste ce nom un petit peu mythique et c'est quand même, même si on en pense qu'on veut de ce nouveau format, un petit peu plus à la hauteur de ce qu'il a accompli durant sa carrière que, souviens-toi, les adieux de Roger Federer à la Lever Cup, tu vois, je trouve était une sortie pas digne de ce qu'il avait accompli. Ça se passe en Espagne. Alcaraz, Marion vient de le rappeler, a eu l'occasion de s'exprimer là-dessus, et il a dit voilà, c'est plus important finalement que le résultat, on s'en fout que l'Espagne se fasse sortir au premier tour là du tournoi final de la Coupe Davis, et tout le monde s'en fout en Espagne. Nadal, lui, gentleman, en plus aussi élégant qu'on l'a connu durant toute sa carrière, a rappelé qu'il irait sur le court que s'il se sent capable d'aider son équipe, donc il ira pas juste pour faire ses adieux et prendre la lumière s'il pense qu'il a aucune chance de gagner. Et on rappelle qu'il y a une histoire un petit peu particulière. Il a gagné tellement de choses, Nadal, depuis que on l'oublie. Mais en 2004, il bat Roddick en finale. Il offre à l'Espagne. Il a 18 ans à peine. Il fait un match exceptionnel. Ils avaient tapé les Français en finale. Arnaud Clément en a parlé récemment. C'est un homme de cette compétition quand elle avait encore un sens en termes de dépassement, en termes de collectif, en termes d'équipe. Bon, t'es un Espagnol, Nadal, t'es un joueur espagnol, Nadal peut jouer, bah, évidemment que t'as envie de l'envoyer sur le court et il mérite ses adieux et je suis pas loin de penser que s'il est sur le court, il sera difficile à battre.
Ok, ça on va en reparler dans quelques instants, mais j'aurais un dilemme à vous poser dans une poignée de secondes. Hein. Restez bien avec nous, vous allez voir, c'est pas facile. Philippe Saint-André.
Tu vois le gentleman, le champion, l'humilité juste dans ses déclarations où il dit voilà, il dit plus ou moins au sélectionneur, si tu m'as pas trouvé bon dans la semaine de préparation, eh ben tu me fais jouer le double.
Oui, mais il peut pas dire autre chose.
Non, il y en a d'autres qui ne le diraient pas. Et mais par contre, je pense que comme dit Marion, il doit être prêt. Il veut finir à domicile. Et je pense qu'on va le voir jouer et il va encore nous régaler pour sa dernière sortie.
Alors vous êtes tous en train de me dire qu'il faut absolument jouer et peu importe le résultat. Je vous propose ce dilemme. Nadal qui joue, voilà, la salle est en fusion, mais malheureusement, eh bien ce double de Rafael Nadal élimine l'Espagne dès les quarts de finale face aux Pays-Bas. Mais il a joué, voilà, c'est le grand Barnum et tout ça. Ou alors Nadal ne joue pas, il est sur le banc, il chauffe ses coéquipiers et l'Espagne gagne la Coupe Davis. Vous prenez quelle version ?
Nadal sur le court.
Nadal sur le court, même une élimination en quart de finale.
Oui.
Tous les jours.
Non, mais le résultat n'est que secondaire.
Mais oui, on s'en fout
du résultat.
L'événement de cette Coupe Davis, ce sont les adieux de Nadal. Et justement, les adieux de Nadal vont peut-être faire du bien à cette Coupe Davis qui n'intéresse plus grand monde et à commencer par les joueurs. Justement, ça va mettre un coup de projecteur sur ce nouveau format de la Coupe Davis. Et justement, Nadal, avec ce que rappelait Philippe, son humilité, son élégance, son appétit pour la victoire, peut justement par cette sortie, par cette envie absolue d'y participer, contribuer à voilà. Pour une fois, on va s'intéresser à la Coupe Davis. Ça fait quelques années que c'est pas arrivé quand même.
Marion, tu es proche du clan Nadal. Moi, je voudrais avoir des informations. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu pressens pour, par exemple, le quart de finale, la mardi face aux Pays-Bas? Est-ce que tu penses qu'il peut jouer le simple, puis le double avec Alcaraz? Est-ce que tu penses qu'il va jouer que le double pour se mettre en route? C'est quoi ton feeling?
Alors, tout dépend déjà du scénario du premier match d'Alcaraz. Déjà, si l'Espagne mène 1-0, si l'Espagne perd 0-1, déjà, ça peut être un petit peu différent. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, j'ai discuté avec ses sponsors historiques qui ont préparé, bien évidemment, un énorme adieu pour lui. Ils seront tous présents. Ça va être extrêmement riche en émotions. Et Rafa est vraiment pas au départ quelqu'un de très démonstratif. On l'a vu avec, entre guillemets, ses adieux refusés à Roland-Garros. Il a pas voulu cette année, durant le tournoi de Roland-Garros, qu'il y ait une cérémonie pour lui. Elle a été faite à Madrid. Elle a pas été faite à Roland-Garros. C'est quelqu'un qui est très pudique. Mais là, ils vont préparer quelque chose qui va être effectivement absolument gigantesque. Mais si on s'arrête un petit peu sur son niveau de jeu, on parle quand même de quelqu'un qui a été capable de gagner Roland Garros avec un pied anesthésié. On parle d'un joueur qui est au-delà de tout le plus grand gladiateur et le plus grand combattant que le tennis ait connu.
Ok, mais ça on Novak sait, Djokovic, ça, moi, je veux le scénario.
Oui, mais le scénario, je vais te le dire, si l'Espagne mène 1-0 et qu'Alcaraz gagne facilement, il lance Nadal en simple.
Ok. Si l'Espagne perd 1-0, il jouera le double.
Exactement. Et si ça fait un partout, tout dépend de la longueur du match de Rafa. Si Rafa joue très bien, que c'est un match arraché et qu'il finit par perdre en 3-7, mais qu'il se sent, il jouera en double avec Alcaraz. Si le match, finalement, est très accroché, mais que physiquement, ça commence à taper et que c'est dur, il mettra Granollers sans doute parce qu'ils auront plus de chances de gagner. Ils vont faire, de toute façon, la meilleure combinaison possible pour avoir les deux. C'est-à-dire que Rafa sera sur le terrain, mais il veut aussi gagner. C'est un compétiteur, hors pair. Qui a la gagne dans le sang, bien évidemment, contre tous ces champions qui sont absolument exceptionnels, qui a envie d'offrir une 7e Coupe Davis à l'Espagne. Et un des actes fondateurs de la carrière de Rafael Nadal, c'est ce match contre Roddy en 2004 à Séville, devant 27 000 personnes. Il est tout jeune, personne ne le connaît, c'est pas encore Rafa. Et ça a été le début de tout. Ça a été ensuite sa victoire à Roland-Garros l'année d'après, etc., etc. Okay. Donc il a envie de finir sur une victoire.
Il n'a pas
envie d'y aller pour faire un entraînement, tu vois.
Attends, on est pris par le temps. Si t'as une question pour Marion ou question pour moi?
Non, pour Marion.
Pourquoi pas pour moi? Non, mais j'ai compris. Attends, il y a juste Taureau. Taureau, j'imagine que c'est pas son vrai prénom. Taureau est avec nous au 32-16. Salut Taureau.
Bonjour à tous, l'équipe RMC. Merci pour l'invitation.
Bah, merci de nous appeler, merci de ta fidélité. Alors, est-ce qu'il doit absolument jouer, Rafael Nadal?
Bonjour Marion. Bien sûr qu'il doit absolument jouer, même s'il fait perdre son équipe. Combien de fois il les a fait gagner? Combien de fois il a mis à l'honneur l'Espagne à Roland-Garros? Donc, personne ne lui en voudra qu'il perde son match. Maintenant, après, comment je vois la suite de la compétition? Je le vois pas jouer tous les matchs. On le sait très bien que Nadal, depuis des années, c'est compliqué. Donc, il y aura forcément une gestion aussi. Mais bien sûr qu'on a envie de voir Rafa sur le terrain une dernière fois, parce que le tennis, je suis désolé Marion, c'est Marion Bartoli qui est là?
Ben oui, 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 oui. Je voulais que ce soit Marion
qui est dans les deux, Marion.
Non, 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 Marion Bartoli, je suis désolé, mais le tennis, il a pris un gros coup depuis Federer, mais depuis Nadal aussi, parce que je considère que depuis deux ans, il est plus trop sur circuit. Et j'espère que ça va repartir, mais en ce moment, je m'ennuie un petit peu avec le tennis. Je suis
bon, on a encore une semaine pour vibrer avec l'Espagnol. Oui. Philippe, rapidement, ta question pour Marion.
Donc, si j'ai bien compris, Marion, le capitaine peut décider après le premier match s'il met Rafa ou pas, c'est ça?
En fait, sur la feuille de match, au départ, tu es obligé d'aligner le deuxième, mais tu peux dire que ton joueur s'est blessé à l'échauffement ou qu'il a subi une blessure ou que finalement il est malade, il peut pas rentrer sur le terrain et tu fais un changement.
D'accord.
À ce moment-là, tu peux pas l'aligner sur le double. Donc c'est pour ça que les scénarios sont compliqués, mais ils vont se poser la question très honnêtement et très franchement, je pense, en fonction du résultat et du score et puis comment vont se passer les journées d'entraînement précédentes. Mais si Rafa a fait des séances d'entraînement et qu'il se sent bien, il sera aligné sur son premier match de simple.
D'accord, merci.
Et ben voilà. Elle a répondu à ta question, cher Philou. On va remercier Taureau, qui était ailé ce matin. Merci d'avoir été avec nous.
Ah oui,
et d'avoir composé le 32-16.
Je suis un grand fan de Rafael Nadal. Vous savez, il m'a donné envie de jouer au tennis, de prendre une cotisation. J'ai fait non classé 15 ans une saison et j'ai terminé au bout de quelques années 4-6. Et ce joueur, il est vraiment incroyable parce que c'est un sportif qui veut toujours gagner, mais il garde un fair play légendaire. Franchement, moi, il m'a inspiré, hein. Cette personne, ce joueur, il m'a vraiment inspiré.
Ok, il est en train de nous parler de son palmarès et Taureau et de ses facultés à jouer au tennis. Bravo, moi aussi.
15-1 en une saison, c'est brutal, hein. Bravo.
Ouais, ouais, bravo, bravo. Moi aussi, hein, je suis un fan de Tiger Woods. Il m'a inspiré. Ça m'empêche pas de jouer plus 20, hein, tu sais. Mais bon, bref. C'est un autre débat. 11h27, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. Le débat caché, l'avez-vous trouvé? Vous m'avez donné des petites indications il y a quelques instants. En tout cas, ça va vous plaire. Ça, c'est sûr. Et ça va vous faire débattre. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h32 toujours avec Marion Bartoli, Philippe Saint-André, Simon Dutin, Marc Madiot. Dans 10 minutes, c'est à vous de jouer les auditeurs. Vous n'êtes pas d'accord avec une grande gueule? C'est très simple. Vous composez le 32-16 et vous venez lui dire en face. Vous savez quoi? Ils savent se défendre. Mais vous avez le droit de leur rentrer
dedans. Après, faut pas avoir peur.
Ah bah non, évidemment. On a parlé du 15 de France, on a parlé de l'équipe de France de foot, on a parlé de Rafael Nadal. On a même parlé du 15 de la Rose en crise. Et ça fait plaisir à Philippe Saint-André. Bref, n'hésitez pas à venir partager votre avis sur un débat du jour. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre sur l'instant, sur l'émotion, première réaction. Le guet-apens du jour, votre débat caché, aujourd'hui, c'est ça.
Coman face à Babou qui revient derrière avec la frappe enroulée de Benzema, elle est contrée, ça revient sur le pied droit de Pogba. Magnifique frappe enroulée, pleine lucarne de la part de Paul Pogba, pleine lucarne à gauche du but de Sommer.
Eh oui, vous vous souvenez de cet instant?
Eh oui, on l'avait vu, Pogba.
Ça a été face à la Suisse, en 8e de finale de l'Euro. Bon, après, ça s'est un peu gâté dans les dernières minutes. Bref, c'est pas ça notre débat. C'est pas France-Suisse. C'est évidemment, et vous l'avez trouvé. Bravo Marc, bravo Marion, Paul Pogba. Cette fois, c'est fini. C'était écrit. Vendredi, la Juve a annoncé qu'elle allait mettre un terme le 30 novembre prochain au contrat de Paul Pogba, une résiliation d'un commun accord. J'aime bien cette expression d'un commun accord. Il y en a toujours un qui est quand même plus d'accord que l'autre. Bref, d'un commun accord. Alors que son contrat courait jusqu'en 2026, suspendu depuis septembre 2023 à la suite d'un contrôle antidopage, l'international français a vu sa sanction passer de 4 ans à 18 mois. Il pourra donc rejouer, on en a déjà parlé dans cette émission, en mars 2025. Et surtout, il est désormais gratuit pour les clubs. Gratuit dans le transfert, hein, pas évidemment dans le montant de la paye au mois. Sur RMC, dans l'émission Rotten sans flamme, le nouveau consultant Patrice Evra avait joué et a joué les entremetteurs.
Moi, ce que j'ai dit, c'est que j'aimerais que Paul a le signé à Marseille. Et j'ai parlé à Mehdi, j'ai dit essayez de faire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que Paul va signer à Marseille.
Ah, tu lui as parlé
il
à Mehdi.
Son contrat. Mais bien sûr, pourquoi je vais pas mentir, je veux qu'il signe à l'Olympique de Marseille. Bien sûr que j'ai parlé avec Mehdi et j'ai dit s'il y a un coup à faire, n'hésitez pas. Il m'a dit mais attends, bien sûr qu'il adorait avoir un Paul Pogba à Marseille, comme dit Jean-Michel, Rabiot Pogba au milieu, c'est le milieu de l'équipe de France.
Et dans cet extrait, Jérôme Rotten parle, lui, du Paris Saint-Germain. Patrice Evra veut le voir à l'OM, Jérôme Rotten veut le voir au Paris Saint-Germain. Notre débat concernant Paul Pogba, OM, PSG, est-ce que ce serait une faute professionnelle de ne pas se jeter sur Paul Pogba? Une faute professionnelle, oui ou non, Simon Dutin?
Oui.
Marion Bartoli?
Oui.
Philippe Saint-André?
Oui.
Marc Madiot? T'as la pression, Marc, hein?
Ah non, mais moi j'ai une autre perception de la chose.
Toi c'est non ?
Non, ni oui ni non. Est-ce qu'on règle d'abord le problème éthique ou est-ce qu'on règle le problème sportif ?
Tu veux qu'on change de débat, Marc ?
On pourrait.
Alors vas-y, dis-nous pourquoi, vas-y.
Non,
c'est quoi ton regard là-dessus ?
Parce que je trouve que on zappe un peu vite le problème éthique de la situation de Pogba. J'ai rien contre le bonhomme, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur le pourquoi du comment. Il prend une suspension longue, et puis d'un seul coup, la suspension est raccourcie, et là, il faudrait qu'il aille à Marseille, il faudrait qu'il aille à machin. Je suis désolé, mais par exemple, en cyclisme, nous, on a le MPCC, un mouvement pour un cyclisme crédible. Est-ce qu'il y a un mouvement pour un football crédible? Je voudrais juste qu'on solde le compte éthique de l'affaire avant de passer au sportif. Voilà.
Ok, et après, et avant d'envisager un retour de Paul Pogba en Ligue 1. Bah déjà, est-ce que vous pouvez répondre sur ce que vient de dire Marc Madiot?
J'ai l'impression, mais...
Non, pas du tout. On adore tous le dopage, évidemment. les copains, Simon.
Il avait pris une suspension très très longue et il a quand même tiré 18 mois sans jouer. Moi, je suis un candide, hein, peut-être, mais j'ai tendance à penser que les mecs qui évoluent à ces altitudes.
Juste un petit mot. Imaginez que ce ne soit pas Pogba footballeur, que ce soit Pogba coureur cycliste, c'est tout.
Moi, j'ai tendance, encore une fois, à penser que les champions de cette trempe-là ne se dopent pas consciemment. Voilà.
Sans doute,
Pogba n'avait rien à gagner à se doper. Il avait déjà quasiment tout gagné. Il savait que, en forme, c'était un joueur dominant, un très fort joueur. Donc, voilà. Encore une fois, je ne m'appuie sur aucune preuve, mais j'ai envie d'acheter la thèse, voilà, de l'erreur, de la négligence, de ce que tu veux. Pour répondre à la question de Jean-Christophe, moi, c'est encore une fois dans ma candeur, ma naïveté, appelez ça comme vous voulez, j'ai tendance à penser que voilà, grand joueur un jour, grand joueur toujours. Pas exclu de penser que cette pause forcée lui a permis de régénérer un organisme qui lui a souvent fait défaut et qui a souvent pété, et trop de blessures qui ont nui, je pense, qui n'ont pas permis de faire jusqu'ici une aussi grande carrière que ce qu'on pouvait lui promettre. Je pense que s'il retrouve la forme et un petit peu de continuité, il peut redevenir un joueur fantastique. Tu dis faute professionnelle, je suis pas sûr qu'il soit dans les petits papiers de Luis Campos et du Paris Saint-Germain, ni dans le catalogue hein, dans lequel Luis Campos choisit ses joueurs. Peut-être une question d'agent, une question d'âge. En revanche, pour l'Olympique de Marseille, un Paul Pogba, entre l'exposition, on oublie très souvent quand on parle de Pogba.
Quand on parle de faute professionnelle, c'est qu'on a besoin de stars en Ligue 1. On n'en a plus des stars.
Oui, mais alors, on va dire ça à Paris. Je ne suis pas sûr qu'ils correspondent vraiment aux standards de ce que Paris considère comme une star.
Après, ça fait du bien à Paris au milieu de terrain. Hein.
Alors, mais c'est un autre débat, ma chère Marion. Mais pour aller encore plus loin que ce que tu dis, moi, je vous prends Rabiot, Pogba au milieu de terrain, et je vous rajoute un petit Antoine Griezmann en fin de saison pour l'Olympique de Marseille qui s'offrirait une contre-exposition, tu vois, un contre-modèle au Paris Saint-Germain. Okay, ça ferait du bien à la Ligue.
Ok, Lloris, Giroud, tous à l'OM, comme ça, voilà.
Pogba, Griezmann et Rabiot. Okay, voilà.
Bon, restons quand même sur Paul Pogba. Est-ce que ce serait une faute professionnelle de ne pas y aller, Philippe?
Ouais, j'ai mis du temps à répondre parce que quand tu recrutes une personne, il y a d'abord l'éthique. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Marc. Il y a son niveau de jeu. Il y a aussi son entourage.
Marseille a pris Greenwood. Hein,
ouais,
alors,
ouais,
bref, bon, vas-y.
Son entourage. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été et qu'il n'a pas joué à son niveau. Par contre, c'est vrai que le championnat français a besoin de grands joueurs, a besoin de têtes d'affiche.
Est-ce qu'il est encore un grand joueur?
Et ça, c'est un grand nom.
Est-ce que c'est un grand joueur? Et c'est là où les cellules de recrutement doivent faire leur travail, parce que là c'est un travail de fourmi, savoir comment il est aux entraînements, parler avec ses préparateurs.
De toute
physiques.
Façon, c'est un pari, Philippe. De toute façon.
Mais ça reste un très grand nom. Ça reste une star.
Oui, mais c'est un pari, mais tu peux essayer de minimiser les risques. Et donc là, tu dois parler avec ceux qui sont au quotidien avec lui sur son aspect physique. Il faut avoir un entretien pour savoir sa motivation, sur son hygiène de vie, sur aussi son corps, dans quel état il est. Donc, quand tu prends un grand nom, tu dois le prendre aussi, mais en prenant le moins de risques possible.
Ben oui, mais justement, est-ce que ça, on s'en moque pas? Est-ce que justement, la question, c'est ça. Peu importe comment est Paul Pogba, quand tu t'appelles l'OM, quand t'as Paul Pogba qui est gratuit, tu dois y aller, Marion.
Ben pour moi, ils doivent prendre le risque. Bien évidemment qu'ils doivent prendre le risque, parce que de toute façon, Pogba aujourd'hui, il a faim. Il a une revanche à prendre. Il doit démontrer d'une certaine manière quelque chose aussi. Il faut quand même pas oublier que c'était le meilleur milieu français des dernières années. Enfin, rappelez-vous la construction. On parlait tout à l'heure de créateurs au milieu de terrain. Alors là, quand on avait Pogba et Griezmann, je veux dire qu'avec Pogba et Griezmann, on les avait vraiment nos créateurs. Rappelez-vous des discours dans les vestiaires en finale de Coupe du Monde, la manière dont on était capable d'être un leader. C'était pas le capitaine sur le terrain avec le brassard, mais c'était comme si. Donc pour moi, l'OM doit absolument l'aller. Et alors tu rigoles tout à l'heure avec Greenwood, et je pourrais rajouter des joueurs. On a quand même été capable de recruter Strootman et Mitroglou, donc dans les nuls on a été capable aussi d'y aller. Donc pour moi, ils doivent absolument prendre le pari. Oui, c'est un pari, mais il peut aussi en termes de préparation physique, finalement arriver à ce que les préparateurs là-bas le remettent en forme, surtout s'assurer qu'il ne se reblesse pas, parce que ça a été les grands problèmes de Pogba. C'est quand même quelqu'un qui est très fragile musculairement et qui a eu beaucoup de blessures, donc arriver à ce qu'il joue et qu'il enchaîne les matchs. Je pense que de retrouver Rabiot, ça peut lui faire plaisir et ça peut le relancer. Et encore une fois, il a une revanche à prendre, Pogba. Il a quelque chose à démontrer, il a faim. C'est pas un joueur qui va arriver en fin de carrière en disant ouais allez vas-y, je tire une année puis on verra bien ce qui se passe. Il doit démontrer quelque chose sur le terrain. Et Simon, je suis complètement d'accord avec lui, la Ligue 1 est en train de perdre énormément de valeur commerciale et de valeur marchande. De relancer la Ligue 1 avec un très grand nom qui reste une star quoi qu'il arrive du foot, ça ferait du bien à tout le monde. Tout le monde.
Par contre, il y a une piste qui est perdue, hein, parce qu'apparemment John Textor voulait à l'OL, mais il peut plus recruter.
Il peut plus recruter. Ouais, non, c'est fini.
Après, est-ce que ça compte vraiment comme un recrutement vu qu'il est libre? Ah, ça, il peut poser la question à la DNCG, notre ami John Textor.
Il y a déjà salarié.
Oui, il
va quand même falloir le payer, même s'il va peut-être être un petit peu moins exigeant qu'à l'époque où il est arrivé de Manchester United.
Et... Non, mais même pour lui, alors c'est vrai qu'il a jamais joué en Ligue 1, mais même pour lui, est-ce que...
Il n'est pas exclu de penser deux choses. Une que j'ai dit tout à l'heure, que cette coupure forcée ait fait du bien en termes de régénération d'un organisme qui a trop souvent lâché. Et pas exclu de penser que peut-être que il voit les choses différemment. Je veux dire, il a très certainement vu la fin de sa carrière et voir cette opportunité, cette sanction réduite comme une chance, une dernière chance de voilà,
éventuellement mondial
et de prouver peut-être que voilà, il aime le foot, il aime le ballon, il aime plus que tout ce jeu et plus que l'exposition dans les plus grands clubs, voilà. Et alors il ne va avoir que 32 ans, mais peut-être qu'il est déjà tourné, sait-on jamais, vers la transmission. T'imagines un Pogba qui arrive dans le vestiaire. Marion rappelait que il faisait déjà preuve quand même d'un charisme dans le vestiaire. C'est un mec qui est capable d'emmener les autres quand il est bon sur le terrain et puis quand il prend la parole dans le vestiaire. Donc
oui, mais est-ce qu'il a besoin d'aller à l'Olympique de Marseille ou plutôt dans un club plus
UP aujourd'hui? Qu'il aille dans un club de seconde zone, quitte à plus pouvoir viser le top 10 des clubs européens, parce que ça a priori c'est rideau, que je vois pas un grand club le Bayern, City ou quoi miser sur lui.
Enfin, il y a des clubs entre City et Marseille.
S'il performe à Marseille, il ira en équipe de France, on regarde Rabiot. Hein.
Bien sûr,
son exactement. Objectif à Paul Ball d'ici la fin de carrière, c'est de revenir en équipe de France avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2026.
Et il
c'est
a plus ça, de chance d'être en Ligue 1, c'est ce que vous me dites.
Bah, il a plus de chance de se relancer en Ligue 1. De toute façon, s'il va dans un très grand championnat au départ avec le manque de matchs et le manque de préparation, il ne va pas jouer. Donc ça ne l'arrange pas. Il doit aller dans un club où il va tout de suite jouer pour reprendre du volume de course, pour reprendre du volume de match, pour que se faire voir. Si éventuellement ensuite l'année prochaine il veut partir, ça c'est autre chose. Mais au départ, il doit aller dans un club où c'est le choix premier. Et l'amour si du public aussi. Elle est foutue.
Il a besoin peut-être aussi de l'amour, l'amour du public.
Donc ce serait une faute professionnelle pour l'OM, pour le Paris Saint-Germain ou pour d'autres clubs de Ligue 1 de ne pas tenter leur chance. Paul Pogba, en tout cas, ça y est, il est sur le marché, il est gratuit et il pourra reprendre la compétition en mars prochain. Forcément, on en reparlera dans les grandes gueules du sport. 11h44, un petit coucou en Laponie finlandaise. Il fait froid, évidemment, c'est le premier slalom de la saison. Clément Noël a réussi quasiment la perfection pour cette première manche. Et d'autres Français le suivent, hein, Léna Marjac.
Oui, Clément Noël qui a été presque parfait. Il y a eu des petites erreurs dans le mur, mais ça ne lui a pas été fatal. Et donc Clément Noël termine en tête de cette première manche. Et donc il y a un deuxième Français, c'est Steven Amier qui est troisième de cette première manche. Donc on aura nos deux tricolores tout à l'heure à partir de 13h pour la seconde manche à Lévis. Et malheureusement, dans les 7 Français engagés, ils seront donc que 2 pour cette seconde manche tout à l'heure. Mais il faut noter quand même que Clément Noël, Steven Amier ont réalisé une manche presque parfaite. Il y a des erreurs, certes, mais en tout cas, ils ont répondu présent, ils ont été rapides, efficaces, et on espère que ça va payer tout à l'heure. On aimerait bien voir nos bleus briller et monter une nouvelle fois sur le podium. Ce serait magnifique.
Bah oui, ce serait magnifique. Question importante, les GG, vous pensez qu'il y a un pont à Lévis ?
Excellent.
Je croyais que tu allais nous faire, c'est peut-être Noël avant l'heure.
Oh, trop fait, celle-là. Ouais. Non, je préfère trouver un vrai humour, voilà, que vous me connaissez tant, évidemment. Lévis en Laponie finlandaise, c'est absolument magnifique. Bref, 11h45, je vous retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite des grandes gueules du sport. C'est votre moment, les auditeurs. Vous venez affronter une GG. Alors n'hésitez pas, c'est le 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Toujours avec Philippe Saint-André, Marion Bartoli, Marc Madiot, Simon Dutin. À partir de midi, restez bien avec nous. On va vous donner toutes les meilleures cotes autour d'Italie-France. Ligue des Nations ce soir, 20h45 à suivre sur RMC. Nous serons avec la Dream Team Foot, la Dream Team des Paris, évidemment. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC,
les grandes gueules du sport et vous.
On accueille tout d'abord Laurent au 32-16. Salut Laurent.
Salut JC, salut les GG.
Laurent, tu... Bah écoute, oui, avec plaisir, on est très heureux de t'accueillir. Tu veux attaquer qui ce matin ?
Alors je vais attaquer personne en particulier, mais tout le monde en général en fait.
Tout le monde en général ?
Ouais,
à quel sujet ?
À l'exception de Simon et de JC. Et je voulais parler golf en fait.
Alors attends Laurent, on va réécouter ce qui s'est passé. Moi aussi je trouve ça ignoble ce qui s'est passé dans cette émission. C'était à 9h45, je voulais parler d'Antoine Rosner qui est toujours en course pour gagner sa carte PGA, le circuit américain la saison prochaine. Et donc évidemment je leur ai demandé leur avis sur cette information. Antoine Rosner, tout près du PGA Tour la saison prochaine, on s'en fout, on s'en fout pas. Philippe Saint-André.
On s'en fout.
Mario Bartoli.
Je m'en fous complètement.
Marc Nadio.
Complètement.
Je savais même pas que ça existait, donc je m'en fous.
Ok. Laurent, tu veux te les faire, moi aussi, on t'écoute.
Ouais. Donc, Rosner est un peu dans le dur là, mais c'est pas trop le sujet. Mais j'en ai un peu marre du bashing sur le golf constamment dans cette émission. 5 minutes, ça va, c'est drôle. Une semaine, c'est drôle. 1 an, 3 ans, c'est drôle. Au bout de 5 ans, ça devient un peu lourd. C'est un peu comme si dans 3 mois vous rappeliez à Marion que l'OM s'est pris une branlée contre la GIA.
On le fait aussi.
Je pense que ça va pas la faire rire en fait très longtemps.
Si. Ça va peut-être la faire rire 5 minutes. J'ai du second degré.
Non mais alors Laurent, moi je suis d'accord avec toi. Tu reconnaîtras quand même ma patience avec les GG. Et justement, j'essaye de temps en temps d'insuffler des débats golf. Tu écoutes le Practice, le podcast de référence sur RMC ?
Alors non. J'écoute tous les week-ends. Moi, je joue au golf depuis 30 ans. Je voudrais juste rappeler à tout le monde que d'abord, c'est un sport formidable, c'est un véritable sport. C'est un sport où vous allez marcher dans la nature pendant 4 heures, 5 heures. Alors, vous allez faire 10 bornes, ok, vous n'allez pas faire du 5 minutes au kilomètre.
Ça dépend, il y en a qui prennent une petite voiture qui a un
même. Ouais, vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, mais vous allez être claqué. Je mets au défi tout le monde de faire 18 trous un dimanche matin. Tout le monde va dormir toute l'après-midi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est le seul sport à ma connaissance où quelqu'un qui est classé 20, 25, 30 peut jouer avec quelqu'un qui est scratch, faire une partie ensemble, même une compète ensemble, sans que tout le monde se fasse chier.
Et tu peux jouer avec tes enfants aussi.
De 7 à 77 ans. Au tennis, vous mettez un mec de 10 ans face à un mec de 30 ans, ça ne va pas être la même. Vous mettez un moins 15 face à un mec qui est classé 30, tout le monde va se faire chier. Et c'est vrai pour tous les sports. Donc, et c'est aussi en France, à ma connaissance, le sport individuel où il y a le plus de licenciés.
Attends, tu joues avec un mec sur un par 5, lui il fait le par 5 et l'autre il met 15 coups, je peux t'assurer qu'il s'emmerde. J'y sais, je te félicite quand même, t'arrives à payer des auditeurs pour parler de golf. Alors là, je te félicite quand même.
Ouais, on m'appelle le dictateur. Juste Laurent, je te propose une chose, parce que alors là, vraiment, depuis 3 ans maintenant, il y a le practice RMC qui existe avec Simon Dutin, avec toute la bande, Fabien Donoyan, Ramucho Artola. On est présent tous les lundis, donc je te propose d'écouter et demain il y aura le dernier numéro de la saison, donc vraiment en podcast le practice RMC, tu vas voir que sur RMC on parle de golf, pas toujours dans les grandes gueules du sport, c'est vrai, mais merci en tout cas pour ton coup de gueule et pour ton appel.
Et la bonne nouvelle c'est que tu as 80 épisodes au moins à réécouter en podcast, hein. C'était la troisième saison.
Exactement, régale-toi. Jean-Marc nous appelle au 32-16, salut Jean-Marc.
Bonjour les grandes gueules, bonjour Benjamin, d'abord, honneur aux dames, et bonjour tout le monde, merci bonjour. De m'accueillir à l'antenne.
Bah, avec plaisir. Ouais, tu veux t'attaquer à qui, toi?
Oh, m'attaquer, c'est un bien grand mot, hein, pas non plus, c'est pas la guerre non plus. Non, c'est surtout dire que j'en ai marre de tout le bashing, de toutes les critiques sur Deschamps, en fait.
Donc
c'est vrai que.
Bravo.
Ah oui, c'était
bravo.
Simon Dutin. On va réécouter ce que disait Simon.
C'est plaisir.
Et après, tu pourras intervenir,
plaisir.
Jean-Marc. Juste ce que disait Simon tout à l'heure sur Didier Deschamps.
Voilà, je reproche ce qui est devenu une caricature du pragmatisme. C'est okay. Bien quand ça te fait gagner, mais quand tu gagnes plus, il faut quand même rendre des comptes et essayer de tourner la barre à droite ou à gauche.
Jean-Marc, on t'écoute.
Quand ça gagne plus, parce que il y a quoi? Parce que Marion l'a très bien dit tout à l'heure. Quand on a un Dembélé ou un Kolo Muani qui envoie des missiles face à un Thomas Ramos quand il a transformé les pénalités hier soir, quand on a un Griezmann qui passe son temps à jouer les candeloros devant les buts, à glisser comme Rabiot, les buts il les aurait marqués, parce que les occasions on les a eues, il les aurait marqués, mais on parlerait peut-être pas de Deschamps comme ça, quoi. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent Deschamps parce qu'il est là depuis trop longtemps, et pas seulement vous, monsieur Dutin, et il y a Dugarry aussi sur Rotten sans flamme aussi, qui devient franchement énervant là-dessus. Pour moi, se servir de Zidane pour taper sur Deschamps, je trouve ça la limite du lamentable. Et donc voilà, Deschamps, il a quand même, il sera resté 14 ans à la tête des Bleus, parce que je pense qu'à mon avis, en 2026, il partira, je pense. Et pour mettre qui, on verra, on saura. Mais en tout cas, moi, je veux que... comment dire ça, là. Les critiques sur Deschamps, franchement, me pèsent lourd, quoi. Voilà.
Okay,
ce sont aux joueurs aussi à prendre leurs responsabilités, quand même, quoi.
C'était notre débat et tu as parfaitement répondu et tu as parfaitement joué le rôle de l'avocat du Didier Deschamps. Stop, arrêtez de dire du mal d'un sélectionneur qui nous a tant fait gagner.
Bravo.
Simon, tu veux répondre?
Vous savez, je veux juste rajouter, Joachim Löw est resté 14 ans à la tête de la Manchester avec le succès qu'on lui connaît, à peu près les mêmes résultats que Deschamps. Je me rappelle pas avoir entendu, la presse allemande, voire même vous-même, en dire du mal, parce que je serais resté depuis 14 ans.
Alors moi, Jean-Marc, désolé, j'écoute rarement la radio ou la télé allemande, donc je ne les ai pas entendus non plus à l'époque. J'ai longtemps défendu Didier Deschamps, justement, dans l'autre camp, en soulignant que ses performances et ce qu'il avait accompli étaient exceptionnelles. C'est quand même Didier Deschamps, rassurez-moi, qui a donné carte blanche à Kolo Muani, qui continue de titulariser un Kolo Muani qui ne joue même pas dans son club, qui nous vante le vécu en bleu comme plus important que la forme du moment. Je pense encore une fois qu'il s'enferme dans ce qui a fait longtemps sa marque de fabrique et qu'il a un petit problème, il s'est enfermé aussi.
Oui, mais Kolo Muani,
c'est piégé avec la relation qu'il a créée avec Mbappé.
Ok, bon, on termine ce débat. Merci beaucoup Jean-Marc d'avoir composé le 32-16 et tu reviens quand tu veux dans les grandes gueules du sport. Tu es ici chez toi. Merci Marion, merci Marc, merci Philippe, merci Simon, merci pour les grandes gueules du sport. On sera là samedi prochain à partir de 9h et forcément nous parlerons de ce troisième test match pour notre équipe de France. C'est vendredi soir, France-Argentine. On sera là dans les GG pour débriefer cette rencontre. Passez une très très belle journée, ça va être encore incroyable sur RMC, notamment 20h45, France-Italie. Italie-France, justement la Ligue des Nations, on en parle dans quelques instants dans les Paris RMC. Allez, à tout de suite.
Salut.
Jusqu'à 13h,
les Paris RMC.